France Culture, question du soir, Matteo Carantin.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Question du soir consacrée aux aides publiques aux entreprises. Suppression de 2 jours fériés, gel des dépenses publiques, lutte contre la fraude sociale, économie sur les dépenses et les remboursements de santé, réduction des niches fiscales, la liste est longue. Et les annonces mardi du Premier ministre François Bayrou pour lutter contre le dérapage des finances publiques touchent à peu près à tous les secteurs de dépenses de l'État, tous, ou enfin presque tous, puisqu'un secteur résiste encore et toujours à la rigueur. En particulier, il s'agit du secteur de l'aide publique aux entreprises. Pourtant, son montant, si l'on en croit un rapport sénatorial publié au début du mois, s'élève à 211 milliards d'euros, ce qui en ferait la plus grande dépense de l'État. À ce sujet, le Premier ministre propose une concertation sans coupe franche pour l'instant. Alors, les entreprises sont-elles les grandes gagnantes du budget Bayrou ? Faut-il chercher des économies dans ces dépenses ? Quelles sont-elles ? À quoi servent-elles ? L'aide aux entreprises est-elle l'angle mort des finances publiques ? On en débat ce soir avec nos deux invités. Nadine Levrato, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directrice de recherche au CNRS. Merci d'être venue aujourd'hui à Radio France pour parler de ce sujet. Olivier Redoulès, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous également d'être ici. Économiste, directeur du pôle études de l'Institut Rex et Code. Vous étiez auparavant, je le précise, rapporteur général adjoint auprès du Haut Conseil des Finances Publiques. Merci à vous deux d'être là. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
D'où vient la dette ? Elle vient des aides publiques aux entreprises privées qui sont sans contrôle, sans contrepartie, sans effet sur l'emploi ni sur les salaires.
Je rappelle qu'en 79-80, c'était pas le communisme en France, hein, c'était seulement 3% du PIB d'aides publiques accordées aux entreprises. On est passé à 7% du PIB, 211 milliards chaque année. Ah ben, quand vous avez 98 milliards de dividendes qui sont donnés aux actionnaires dans des groupes qu'on aide publiquement, moi j'ai pas envie que vos impôts, mes impôts et les impôts des gens modestes servent en quelque sorte, ou qu'on va réduire nos recettes pour enrichir des gens qui sont des actionnaires et des grands groupes. C'est absurde.
Les aides publiques sont une déclinaison de politique publique. À un moment donné, on veut faire un rattrapage technologique, on veut créer de l'emploi. Il y a tellement de fantasmes autour des aides aux entreprises et des grandes entreprises qu'on pourrait croire que c'est des cadeaux aux entreprises et qu'elles font n'importe quoi avec cet argent.
Ce sont des sommes très importantes et il me semble qu'il faut reprendre la réflexion sur tout cet ensemble à partir d'orientation nouvelle et franche. Alors je vous propose que cette réflexion soit organisée autour d'un principe d'échange d'avantages. Moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance.
Voilà, pour quelques réactions aux propositions du Premier ministre François Bayrou, je vous les donne dans l'ordre. Thomas Vacheron, secrétaire confédéral du bureau exécutif de la CGT, Alexis Corbière, député du groupe écologiste et social, Dominique Carlac, membre du conseil exécutif du MENEF, et enfin François Bayrou qui précise sa vision des choses, notamment sur l'aide publique aux entreprises. Nadine Levrato, les entreprises sont, comme on l'a entendu ces derniers jours, les grandes gagnantes du budget 2026 ?
Les entreprises sont gagnantes du budget, mais de différentes manières, en fait. D'une part, depuis longtemps, ce sont les ménages qui contribuent aux recettes de l'État de manière majoritaire à travers l'impôt sur le revenu et surtout la TVA. L'impôt sur les sociétés représente un quart à peu près des recettes. Et de plus, lorsqu'on regarde l'évolution de la charge fiscale des entreprises et des ménages, on voit qu'il y a un décrochage dans le sens où depuis 2017, celle des entreprises diminue alors que celle des ménages augmente. Donc il y a plusieurs raisons à cela que l'on peut trouver à travers la dépense budgétaire ou les avantages fiscaux, pour faire simple, on pourra préciser. Mais la politique, la doctrine qui a été retenue, c'est une politique de l'offre, va-t-on dire, qui consiste à faire de la relance et de la compétitivité en allégeant les coûts de production, les fameuses charges des entreprises. Donc, dans cette logique, voilà pourquoi elles doivent payer moins.
Et voilà pourquoi elles ont été considérées les grandes gagnantes de ce budget, entre guillemets. Je répète cette expression puisqu'on l'a retrouvée partout dans la presse, Olivier Redoulès. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression ?
Je ne sais pas s'il faut mettre les ménages et les entreprises au même plan qu'on parle de gagnants ou de perdants. Je m'explique. Effectivement, qu'on parle d'impôts ou de taxes, il y a un certain nombre d'impôts, de taxes qui vont vers les ménages, qui vont vers les entreprises, de la même façon d'ailleurs pour les dépenses. Mais il y a une différence entre les ménages et les entreprises, c'est que les ménages, ce sont des personnes qui reçoivent des revenus, qui paient des impôts, qui reçoivent des aides, qui consomment, qui reçoivent des services publics. Les entreprises, ce sont un lieu de production. Elles vendent des choses, elles sont soumises à certaines règles, elles doivent s'acquitter de certaines taxes. De temps en temps, elles reçoivent aussi des aides pour faire ça. Ça fait de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle la répartit entre les salariés, entre les actionnaires, une particulière à l'État. Et donc, à la fin, l'entreprise, c'est un peu une coquille vide de dire qu'on est d'une entreprise, au fond, qu'on est un gagnant ou un perdant. La question se pose, c'est qui, au fond, qui va bénéficier de cette aide ? Est-ce que ça va être le client de l'entreprise, qui peut être d'ailleurs une autre entreprise ? Est-ce que ça va être les salariés ? Est-ce que ça va être les salariés qui sont déjà dans l'entreprise ? Est-ce que ça va être de nouveaux salariés qui vont émerger, qui vont rejoindre l'entreprise parce qu'elle va créer des emplois ? Est-ce que ça va être les actionnaires ? Donc, tout ça, en fait, pose une question de... Quelle est l'incidence d'une aide ? La question de l'incidence...
Est-ce que, là, on a entendu ces jours-ci le chiffre de 211 milliards, qui est la conclusion de cette commission parlementaire sénatoriale qui a tenté d'enquêter. On va revenir d'ailleurs sur ces conclusions plus tard dans l'émission et sur ces constats, notamment sur la question de transparence, de rationalisation et de responsabilisation des entreprises. Mais lorsqu'on entend ce chiffre de 211 milliards, est-ce que vous comprenez, Olivier Redoulès, et puis je vous donnerai la parole juste après, Nadine Levrato, qu'il semble que la balance, disons, soit à la faveur de ce budget extrêmement important vis-à-vis de ce qui est demandé aux autres secteurs de la société, par exemple dans la santé, les dépenses sociales, les fraudes sociales, etc., etc.
Je pense que de ce 211 milliards, déjà, il faut voir de quoi on parle dedans. Et d'ailleurs, le Sénat donne deux périmètres. Et puis, France Stratégie a sorti un rapport hier ou avant-hier.
Le haut commissariat au plan a donné un autre rapport. D'ailleurs, je vais vous demander dans quelques instants comment est-ce qu'on fait pour calculer, pourquoi est-ce que les chiffres sont si différents.
Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'on met dedans. Par exemple, si, après, on pourra rentrer dans les détails plus tard, mais dans le 211 milliards, il y a des prêts, par exemple. Il y a des prêts de BPI France aux entreprises. Il y a ce qu'on appelle des aides fiscales déclassées, des dépenses fiscales déclassées, on pourrait y revenir, qui sont en fait des choses qui ne sont plus considérées comme des dépenses fiscales, qui ont disparu normalement des compteurs parce que c'est devenu le droit commun. Ce qu'on appelle une aide, en général, c'est défini comme une dérogation au droit commun. Une fois que les choses rentrent de droit commun, il n'y a plus d'aide, d'une certaine façon. Là-dedans, vous avez, par exemple, les taux réduits de TVA. Les taux réduits de TVA, est-ce qu'ils bénéficient aux ménages, est-ce qu'ils bénéficient aux entreprises? C'est toujours un peu compliqué, vu que la TVA, c'est un impôt sur la consommation. C'est le consommateur qui le paie. Alors après, ça dépend du comportement de marge des entreprises. Vous avez aussi, bien sûr, vous avez un certain nombre de subventions. Dans ces subventions, vous avez d'ailleurs des subventions qui vont aux entreprises publiques. Donc, au final, en fait, ce qui est important, et je pense que c'est là où le Sénat, et puis le rapport aussi du Haut-Commissariat au Plan, mais aussi d'autres rapports qui ont précédé.
Il y a un rapport de la Cour des comptes en mars dernier, par exemple.
Il y a la Cour des comptes, il y a le Clercé, il y a France Stratégie, il y a certains corps d'inspection. Ils montrent la grande hétérogénéité de ces dispositifs. Et donc, en fait, qu'il faut regarder l'un après l'autre. Peut-être quand même, pour conclure, pour revenir sur le budget, ce qu'il faut voir, c'est que l'an dernier, déjà, on a réduit les aides aux entreprises telles que considérées dans le rapport du Sénat, parce que les agents de cotisation employeur ont été baissés de 2 milliards. On a aussi fait une surtaxe exceptionnelle de l'IS d'à peu près 8 milliards. On a fait un certain nombre aussi d'autres mesures. Donc, à la fin, voilà, il faut repartir de cette base-là pour tenir le bon compteur.
Nadine Evrato.
Certes, les aides sont très hétérogènes. Et d'ailleurs, la note de France Stratégie qui est sortie hier, écrite par Mohamed Harfi, contient un très joli graphique qui permet justement de...
On peut le retrouver très facilement, ce rapport en ligne. Et le graphique est dans la première page. Effectivement, il est très parlant.
Il est vraiment très clair et il montre toute la complexité, mais aussi la possibilité de dresser une typologie de ces aides aux entreprises.
Alors quelles sont-elles ? Dites-nous.
En fait, Il y a deux choses. Il y a le volume total des aides, alors variable, comme vous le rappeliez, mais prenons par convention 211 milliards d'euros.
Ça, ce sont les chiffres du
par
Sénat.
An, hein, le clercé était au même niveau.
Le Haut Commissariat parle de 112 milliards.
Aussi, voilà. Donc, c'est assez cohérent. C'est énorme, mais c'est pas prélevé partout de la même manière. Tous les ministères, quasiment, contribuent à l'octroi d'aide aux entreprises, bien sûr le ministère de l'économie, mais aussi le ministère de la culture, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, il y a toutes ces exonérations qui, aujourd'hui, comptent beaucoup plus que l'injection d'argent frais directement dans les entreprises.
Alors, pour que ce soit clair, quels sont les pôles, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, aide aux entreprises? Aidez-nous, la Dinovato, à comprendre ça.
On a quatre grandes catégories, en fait. Les aides budgétaires, celles que tout le monde imagine comme étant je donne de l'argent ou l'État donne de l'argent aux entreprises sous la forme de subventions, d'avances qui peuvent être remboursables d'ailleurs, de compensation de charges de service public, d'aides sectorielles, etc. 40 milliards d'euros à peu près. Ensuite, on a les aides fiscales. Donc ça, ce sont les
exonérations,
les réductions d'impôts, les taux de réduits de TVA, 52 milliards par an. Et c'est ici que devraient figurer d'ailleurs ces fameuses dépenses déclassées qui remplissent des pages et des pages du tome 2 de l'annexe des voies et moyens du fameux projet de loi de finances. Ensuite, on a quelque chose qui n'est pas directement imputé sur le budget, ce sont les exonérations de cotisations sociales, qui étaient précédemment le CICE et qui étaient avant le CICE des exonérations de cotisations sociales.
Et alors ça, elles sont vraiment pointées du doigt en particulier. Le rapport de la Cour des comptes de mars dernier a spécifié qu'elles étaient passées de 20 à 80 milliards, qu'elles avaient été multipliées par 4 ces dernières années. Donc c'est ça le gros, et peut-être vous serez d'accord là-dessus, au moins Olivier Rodoulès, le gros des aides publiques, de ce qu'on appelle les aides publiques aux entreprises, ce sont ces exonérations de cotisations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, exonération de cotisations sociales?
C'est quelque chose qui existe depuis 1991. Ça avait été introduit par Alain Juppé, et vraiment, c'était extrêmement ciblé. Et progressivement, ces exonérations de cotisations sociales ont été étendues, c'est-à-dire que au début, c'était vraiment près du SMIC, et aujourd'hui, le régime général d'exonération va jusqu'à 1,6 SMIC, plus les régimes exceptionnels sur l'outre-mer, sur certains postes, certains métiers, etc. C'est 74 milliards d'euros par an qui ne sont pas réglés par les entreprises à la sécurité sociale. Donc ça explique aussi, j'entendais Michaël Zemmour en parler récemment sur cette même antenne le matin, ça alimente aussi le déficit du régime de la sécurité sociale.
Et le trou de la sécu, comme on dit,
le fameux trou
de manière
familiale. Et ces exonérations de cotisations sociales, ce sont des cotisations sociales patronales qui ne sont pas payées par les entreprises pour les inciter à créer ou à maintenir les emplois. Donc, il y a des travaux qui ont été faits pour évaluer. Le résultat n'est pas formidable, on va dire, mais voilà, c'est l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation nationale, des enseignants comprises.
Et enfin, juste ces exonérations là. Et enfin, le quatrième pilier,
ce sont les aides financières sur les prêts, les garanties, les participations. Et ça, c'est pas grand chose comparé au reste, puisque c'est 17 milliards. Et puis après, il y a toute une série de petites choses, des aides européennes, locales, etc.
Pour finir de poser les choses, parce que je pense qu'elles sont peut-être de plus en plus claires, Olivier Rodoulès, qui profite de ces aides? Est-ce que ce sont d'abord les petites entreprises, les moyennes entreprises, est-ce que ce sont les grandes entreprises? Comment est-ce qu'elles sont fléchées? Qui, où va toute cette manne importante d'argent que vient de nous décrire très précisément Nadine Levratin?
Je voudrais juste revenir un peu sur les exonérations. D'ailleurs, les exonérations, par définition, elles profitent à peu près à tout le monde. Alors, il y a certains secteurs certains territoires en particulier qui bénéficient d'exonérations plus fortes, je pense aux territoires d'outre-mer, mais en pratique, on a en fait un barème qui est uniforme pour tout le monde et la différence entre entreprises se fait soit du secteur de leur appartenance, certains secteurs emploient peut-être emploient des salaires plus élevés que d'autres, et aussi de la taille d'entreprise. On sait que dans les grandes entreprises, on a en général des niveaux de salaire plus élevés que d'autres, donc c'est là où se fait la différence. Mais un mot sur les exonérations, ensuite je viendrai sur qui bénéficie. Ce qu'il faut savoir, c'est les exonérations, c'est peut-être la meilleure illustration de la problématique des aides aux entreprises. Comme Nadine le rappelait, elles sont nées au début des années 90. Et elles ont été abondées, augmentées par les divers gouvernements successifs. Il y a eu, au cours des années 90, c'était parce qu'on se disait, voilà, on a un niveau de cotisation sociale trop élevé, ça exclut trop de gens qui sont auprès du SMIC, donc on va rendre le coût du travail plus faible pour ces gens-là. Ensuite, on s'est dit, il y a peut-être des problèmes de ce qu'on appelait des trappes à bas salaire, donc on a étendu un petit peu. Ensuite, on a fait les 35 heures. Avec les 35 heures, on a rajouté à la fois les gouvernements Aubry, puis Robien, puis après, c'est devenu les exonérations Fillon. On a rajouté des aides.
Ce que ensuite, vous dites, en fait, c'est que ces exonérations et ce système d'aide aux entreprises, c'est un processus lent dans le temps, sédimentaire comme absolument. Une espèce de millefeuille successif.
Absolument. Et la réalité, si moi, si je devais y donner une explication, on pourrait avoir deux explications possibles. La première, qui serait de se dire, voilà, on a un SMIC qui est trop élevé, et à un moment donné, il tasse tous les salaires chargés vers le haut, et à un moment donné, on n'arrive pas, les entreprises font face à un coût du travail trop élevé. Une autre façon de voir les choses, c'est que ce n'est pas forcément le SMIC qui est trop élevé, mais c'est que c'est la couche de charges de cotisation sociale qui inclut, en fait, qu'il faut à peu près 40 points, 45 points au taux normal. Ça dépend d'ailleurs des régions, parce que en fonction si on ajoute un versement de transport ou autre. Et de fait, ce niveau de charges, en fait, il est devenu parfois insupportable.
C'est le coût du travail trop élevé qui explique la hausse et la sédimentation successive de ces aides aux entreprises, selon vous, Nadine Lorado, vous êtes d'accord ?
Je crois que ce sont surtout les demandes récurrentes des entreprises pour augmenter les exonérations de cotisations sociales qui expliquent cette addiction, comme disent certains, aux exonérations de cotisations sociales, d'autant que les évaluations qui ont été faites, et depuis longtemps, puisque je me souviens qu'avec ma collègue Aziza Garça, nous avions publié un article en 2016 sur le sujet, leur effet sur la création d'emplois est extrêmement discutable, leur effet sur la compétitivité internationale mesurée par le chiffre d'affaires à l'étranger n'est pas évident. En revanche, on voyait un lien avec le taux de profit. Donc, il y a des évaluations qui ont été faites par divers laboratoires, centres de recherche, qui montrent que ces exonérations de cotisations sociales sont au minimum mal calibrées aujourd'hui. Et même ceux qui en étaient les plus farouches partisans sont aujourd'hui moins enclins à défendre ce système.
Donc, selon vous, c'est que aujourd'hui, on a la démonstration que ces exonérations et ces aides ne fonctionnent pas. C'est ça que vous dites, Nadine Lorato ?
Elles ne fonctionnent pas, non. Les arguments, mais on va retrouver la même chose pour le crédit impôt recherche, avec les évaluations qui ont été faites sous l'égide de France Stratégie, qui montrent qu'il n'y a pas d'efficacité de l'aide. L'argument qui est parfois donné pour justifier leur maintien, c'est certes l'effet positif sur la cible, que soit l'emploi, la R&D ou l'emploi de chercheurs ou les brevets n'est pas évident, mais les supprimer serait une source de désagrément pour les entreprises et de perte de compétitivité. Donc l'évaluation aujourd'hui, et le rapport sénatorial le rappelle, est très défaillante, mais lorsqu'elle existe, elle n'est pas utilisée pour toiletter ou redéfinir les contours des aides.
Je me permets, Olivier Redoulès, de vous citer une partie des conclusions de ce rapport avec plusieurs exemples. Il y a évidemment l'exemple d'Auchan ces dernières années. Novembre 2024, le groupe annonce un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de licenciement visant 2384 salariés. Le même groupe avait perçu 1,9 milliard d'euros d'aide publique entre 2013 et 2023. Michelin, qui a beaucoup fait parler, qui est d'ailleurs à l'origine de cette commission d'enquête, novembre 2024, pareil, 1254 suppressions de postes, 70 millions d'euros d'aide publique en deux ans et 1,4 milliard d'euros de dividendes. ArcelorMittal, 600 suppressions d'emplois, 300 millions d'euros de soutien public, et puis je peux continuer, ST Microelectronics, 1000 départs volontaires d'ici 2028, 487 millions d'euros d'aides diverses et des dividendes s'élevant à 200 millions d'actionnaires. On a la sensation, et peut-être Nadine Levrato a soulevé ce point-là, en lisant cette liste du rapport sénatorial, on peut avoir le sentiment que les aides publiques n'empêchent pas les plans sociaux, et même parfois que les sommes allouées sont du même ordre de grandeur que les montants du dividende. Alors je vous pose une question provocante. Est-ce que les aides publiques, plutôt que de soutenir ou de permettre de préserver l'emploi, ou de favoriser, disons, l'activité industrielle en France, est-ce que elles sont aujourd'hui fléchées vers la consolidation des bénéfices de ces grands groupes ?
Je pense qu'il faut...
Parce que c'est ça qui est souvent montré dans le débat politique, dans les chaînes télé, c'est ce qu'on entend, ce sont des arguments qui reviennent régulièrement.
Mais je veux bien entendre que les ordres de grandeur sont comparables. Ce qu'il faut avoir en tête, d'ailleurs, c'est premièrement, c'est qu'en général, quand on parle dividende au monde, et là, on parle de montant France. Donc peut-être il faut regarder s'il faut mettre en face l'activité France, les aides de France versus des dividendes au monde, et ce qui peut revenir.
Ces chiffres ne sont pas comparables selon vous, puisque ne concernent pas.
Il faut regarder entreprise par entreprise. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire les rapports. Là, ça prend un certain temps. Il faut faire les choses sérieusement pour se faire. Et sans doute qu'on n'a pas les mêmes situations pour toutes les entreprises. Donc c'est difficile de faire une réponse générale. Ce qu'on peut voir, c'est que au fond, il n'y a pas de contractualisation des aides. Il y a un contrôle, en général, et ce contrôle, il s'opère notamment au moment du contrôle fiscal. C'est un contrôle de forme, c'est-à-dire, vous n'allez pas appliquer une exonération de charges, ce qui est préservé à quelqu'un qui a moins de 1,6 SMIC, à quelqu'un qui a 10 SMIC, voilà. Donc il y a un contrôle de forme qui est fait, qui est assez sérieux, qui est fait à la fois par l'URSSAF, par les impôts, mais après, il n'y a pas forcément de contractualisation. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de contractualisation, en fait, il faut l'intégrer dès le début, c'est-à-dire au moment donné, quand l'entreprise elle fait son investissement, ou elle ne le fait pas d'ailleurs, qu'elle fait sa décision, elle intègre le fait qu'il y ait une aide et pas de contractualisation. Ça fait partie de son business plan, c'est-à-dire à un moment donné, une entreprise, c'est un ensemble de cellules, ce sont souvent d'ailleurs des business units qui sont en concurrence entre elles, à la fois sur le territoire français et entre différents territoires, entre différents pays, pour une entreprise donnée, et donc chacun essaie d'avoir forcément la meilleure rentabilité. On peut aller vers la contractualisation, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais il faut savoir que du coup, les effets ne seront pas les mêmes, il faut bien se poser la question de ce qu'on veut.
Comment on fait pour juger des effets ? Est-ce que vous partagez ce sentiment d'abus que je viens de vous décrire, qui est en réalité celui qui revient lorsqu'on parle des aides publiques aux entreprises ? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on parle de centaines de millions d'euros d'investissement de l'État, et en phase de suppression de postes, de crise industrielle, de crise de l'emploi, de crise sociale.
Je pense qu'il faut voir deux choses différentes. Premier point, je vais rebondir sur ce que disait Nadine tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, on a du mal à évaluer les effets. Par exemple, le CICE, ou maintenant les cotisations de charges, c'est effectivement un sujet. Quand vous regardez la courbe des allègements de charges, c'est étonnant. Vous avez une progressivité des taux de cotisation qui vont à peu près de 7%, des taux de cotisation employeur, jusqu'à 45% à l'espace de 3 SMIC. Donc il y a une très forte pente. C'est quelque chose d'ailleurs qui est assez atypique. Se compare aux autres pays, on ne retrouve pas ça. Ça pose un certain nombre de sujets. Par exemple, on sait que sur les bas salaires, ce sont les entreprises clientes se font restituer ces baisses de cotisations. Donc ça fait partie des prix, ça fait partie de la compétitivité de l'entreprise qui en bénéficie. Si on supprime cette cotisation, elle va devoir répercuter ça sous forme de prix. Peut-être qu'elle va perdre des marchés. La question va se poser. Ensuite, on se pose souvent la question des cotisations sur le haut de la distribution, c'est-à-dire ce qu'on appelle les salaires intermédiaires élevés, entre 2,5 et 3,5. Ben, on peut se dire, voilà, pourquoi on subventionne de tels salaires ? C'est une vraie question qui est légitime. Mais quand on revient sur ça, on arrive à une progressivité qui est encore plus forte. On arrive à des situations de ce qu'on appelle le trappe à bas salaire, où pour augmenter de 100 euros le salarié, il faut que l'employeur paye 500 euros. Donc en fait, on se rend compte, et le problème, le mot addiction que vous avez mentionné, on peut trouver un autre mot, mais peu importe. C'est vrai qu'on est rentré dans un système où ces systèmes d'aide font partie intégrante de la décision d'affaires d'entreprise, à la fois au niveau global, mais même dans les business units. Et donc, il faut se poser la question, peut-être, de comment on en sort.
Mais ça veut dire quoi ? Je voudrais faire rebondir là-dessus, Nadine Vrato. Est-ce que l'économie, aujourd'hui, est artificiellement dopée par l'État ? Est-ce que l'économie française ne serait pas capable de fonctionner sans ces aides ? Parce que c'est ça que vous êtes en train de pointer, Olivier Redoulat.
C'est le titre du rapport du Clercé pour l'Institut de recherche d'économie sociale. Un capitalisme sous perfusion. Mais ce n'est pas typiquement français. C'est-à-dire que lorsqu'on voit tous les pays, États-Unis en tête, débloquer massivement des aides pour soutenir l'économie, on voit bien qu'on est dans un système qui n'a absolument rien à voir avec la concurrence et le marché parfait que l'on apprend en première année d'économie. Donc, que l'État investisse, que l'État dépense, que l'État régule l'économie, c'est normal. Sinon, c'est la jungle. Donc, de même qu'il y a des règles, il peut y avoir, et c'est bien que des secteurs soient soutenus, soit parce qu'ils sont en difficulté, soit parce qu'ils sont en évolution. La question, c'est de savoir qui bénéficient de ces aides et comment elles sont utilisées. Et là, ça devient très compliqué parce qu'il faut disposer de données à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle du groupe, et vraiment travailler au niveau le plus microéconomique qui soit.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
On recherche encore 40 milliards d'économiques, et nous pensons, les uns et les autres, que chaque euro dépensé doit être un euro utile à la société. Et donc, dans un contexte où il y avait parfois de l'incompréhension ou de la colère de voir des grandes entreprises toucher des aides publiques, verser des dividendes, racheter des actions, licencier, il était légitime que nous posions la question à quoi sert l'argent public par les grandes entreprises. Ce qui nous a stupéfait, c'est qu'il n'existe aujourd'hui aucune définition précise des aides publiques, qu'il n'y a quasi aucun tableau de suivi et d'évaluation, qu'il existe 2252 dispositifs d'aide d'État direct ou indirect, budgétaire, fiscale, classée ou déclassée, ou d'exonération de cotisations patronales, et qu'en réalité, il n'y a aucun tableau centralisateur. Donc, l'administration a été incapable de nous dire combien elle donnait, à qui et à quoi cela servait.
L'aide aux entreprises est-elle l'angle mort des finances publiques ? C'est la question que nous nous posons ce soir dans Questions du soir. Et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h en compagnie de Nadine Vrato, économiste et directrice de recherche au CNRS, et Olivier Redoulès, économiste, directeur du pôle études de l'Institut Rexecode. On vient d'entendre Fabien Gay, le rapporteur de la commission d'enquête transparence et évaluation des aides publiques aux entreprises. Il pointe la question que nous avons déjà un peu pointée en début d'humation, c'est l'impossibilité, la quasi-impossibilité de comprendre, de savoir quelles sont ces aides. Ils ont répertorié 2250 aides environ, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est là le cœur du problème ? Nadine Vrato et puis Olivier Redoulès.
Oui, il n'y a pas de données, il n'y a pas un tableau, comme le dit le rapporteur, qui recense l'ensemble des aides aux entreprises. Parce que déjà, il n'y a pas de définition unique des aides aux entreprises. Donc, il faut procéder par convention et dire par hypothèse, je suppose qu'une aide est définie de telle et telle façon, puisque la définition européenne laisse de côté un très grand nombre de dispositifs. Ensuite, se pose la question à qui bénéficie véritablement l'aide attribuée, mais on pourrait dire la même chose pour tout ce qui est attribué aux ménages, puisqu'ils vont consommer et donc, au bout du compte, l'aide aide à la rentrée scolaire, par exemple, va bénéficier au commerce et aux producteurs de cartables. Donc, il faut bien regarder chez qui l'aide arrive, chez quel agent économique l'aide arrive. Donc, cette absence de chiffrage, elle est à la fois étonnante, parce que les services de Bercy savent normalement très bien, ou en tout cas pour ce qui concerne les aides d'État.
Comment vous l'expliquez?
Je ne sais pas, je ne travaille pas à la direction des finances publiques, mais il y a des demandes récurrentes qui ont été faites je crois qu'elles n'ont jamais été suivies des faits. Et travailler régulièrement sur cette question des aides aux entreprises. Récemment, sur la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 10 milliards d'euros par an, encore d'exonération donc accordée aux entreprises sans étude d'impact préalable, on s'aperçoit que c'est hyper technique, qu'il y a sur chaque aide différents régimes, si bien que le coût d'entrée dans le chiffrage est extrêmement élevé, sans compter que on a du multicouche, c'est-à-dire qu'il y a les aides d'État, les aides des régions, les aides des collectivités locales, un peu les départements, donc on
énormément a les communes qui sont à 40% des aides.
Oui. Voilà, donc c'est une nébuleuse, et disposer d'un tableau d'ensemble exige des simplifications, mais c'est absolument nécessaire. C'est un enjeu démocratique aussi.
Olivier Redoulès, est-ce que si l'objectif de fond de ces aides, c'est de soutenir l'économie, de préserver l'emploi, de relancer l'industrie, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on le fait le mieux? Est-ce que c'est à travers les exonérations, à travers les aides qui sont en place, qui ont été dépouillées par les sénateurs, qu'on le fait le mieux?
C'est une vraie question, en fait, qu'on regarde les montants d'aide, ce qui témoigne globalement, et leur diversité à diversité de dispositifs et le grand nombre de dispositifs, témoigne en fait d'une très forte intervention de la puissance publique sous ses différentes formes, sous ses différents niveaux, du niveau européen jusqu'au niveau local, sur les volets sociaux des différents ministères dans l'économie. Donc en fait, le montant global, c'est presque plus une ombre portée de l'intervention publique dans l'économie qu'une véritable aide en soi. En fait, si on voulait vraiment regarder l'aide en soi, il faudrait regarder le montant net. C'est-à-dire, si on prend le montant net, en fait, les entreprises, elles paient à peu près, qu'on met tout bout à bout, plus de 500 milliards de prélèvements obligatoires. On enlève les aides, si on prend même la définition la plus large, 200 milliards, on arrive à plus de 300 milliards de contributions nettes des entreprises à l'économie.
Mais alors, quelle autre manière
que ça à leur valeur ajoutée, ce sont celle qui paie quasiment le plus au niveau de l'Union européenne, sans doute qu'il y a la Suède devant ou un ou deux autres pays, mais on paie beaucoup. Mais l'État, en fait, l'État, la puissance publique, parce que quand on dit État, en fait, c'est souvent l'État central, mais en fait, il y a les collectivités locales, ont ce jeu qui est un jeu un peu de tango avec les entreprises où, à un moment donné, ils veulent prélever de la richesse parce que il faut bien, à un moment donné, financer notre modèle social, financer aussi les demandes des entreprises elles-mêmes, qui demandent des infrastructures, qui demandent de la formation, etc. Et puis, en même temps, de temps en temps, on se dit, ah, mais là, on voudrait que tel secteur se développe. On voudrait avoir plus de R&D en France. On voudrait soutenir l'agriculture. On voudrait répondre à telle demande sociale. Et là, on met une aide ponctuelle. Ou alors telle catégorie de la population, tel niveau d'emploi, etc. Et donc,
mais là,
ce n'est
pas le
cas
aujourd'hui. Parce que
on arrive à une superposition de dispositifs.
Mais là, ce ne sont pas des aides ponctuelles. On a l'impression que ce sont des aides qui sont pérennes. Vous, ce que vous préconisez, serait qu'il serait plus malin de faire secteur.
C'est ce qui se passe. Mais ces aides ponctuelles, en fait, elles restent. Elles sont ponctuelles au niveau où elles vont, pas au niveau temporel, elles sont ponctuelles au niveau où, parce qu'elles vont toucher un endroit particulier de l'économie.
D'accord.
En fait, on fait un petit peu de la chirurgie, on fait aussi parfois, on arrose large, ça dépend en fait des domaines, mais de fait, en fait, il y a cette volonté d'intervention de l'État de l'économie, et c'est ça qui joue au fond, c'est ça qui ressort.
Nadine Levrato, vous avez fait plusieurs fois non de la tête pendant la prise de parole d'Olivier Redoulès.
Oui, je suis désolée. Ce que j'entends, c'est que on parle toujours de soutien au secteur, de soutien à des territoires, Et dans le mode d'action ou le mode opératoire des aides, ce sont des aides aux entreprises. Alors là, déjà, il y a un décalage. Est-ce qu'on veut toucher au niveau méso-économique, le secteur, le territoire, ou est-ce qu'on veut aider le niveau micro-économique, c'est-à-dire l'entreprise? Et la somme des entreprises ne fait pas un secteur ou ne fait pas un territoire.
Quand on vous aide un secteur, par exemple, on compte comme aide au bâtiment, le taux de TVA réduit, ça va être une aide aux entreprises, mais ça va cibler tel type d'activité.
Elles sont totalement hétérogènes, et justement, les orientations des politiques publiques européennes sont en train de montrer que ce qu'on appelle les place-based policies, c'est-à-dire les politiques qui sont ciblées sur des territoires, sont plus efficaces que les people-based ou les firm-based policies, c'est-à-dire qui sont ciblées sur des entités microéconomiques. Ce qui est logique, puisque un tissu productif va se faire par les liens inter-entreprises qui sont mis en place, d'où l'intérêt des politiques de filière, des politiques de grappe, des politiques de territoire d'industrie, qui coûte beaucoup moins cher que tous les dispositifs dont nous avons parlé jusqu'à présent et qui sont souvent relativement efficaces. Alors, la Cour des comptes a réalisé une enquête évaluative des territoires d'industrie. Certes, tous ne marchent pas parfaitement bien, mais il y a un gros tiers qui, avec des moyens très limités, a réussi à relancer ou à maintenir de l'activité industrielle qui était l'une des priorités, y compris du plan France 2030. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que on a toujours considéré que les entreprises étaient celles qui savaient le mieux réaliser, mettre en place les stratégies et que leur compétitivité individuelle ferait la compétitivité internationale de la France, il faudrait peut-être changer de lunettes ou en tout cas changer de doctrine et penser d'emblée au niveau de collectifs d'entreprises, ça reste des entreprises, mais ce sont des collectifs d'entreprises, pour privilégier des projets communs et favoriser un ancrage au territoire que les cas que vous avez cités, notamment le dernier en date, ArcelorMittal ou Michelin, ne respectent plus vraiment.
Donc ce n'est pas tant la taille de l'entreprise pour vous qui doit compter dans l'octroi des aides, mais plus leur mise en réseau avec d'autres entreprises pour créer des écosystèmes. C'est plutôt comme cela qu'il faudrait penser, c'est ça, Nadine?
Oui, pour bien comprendre. Oui, et pour deux raisons. La première, c'est parce qu'un écosystème productif est territorialement ancré. La deuxième, c'est parce que la plupart des PME, en tout cas en France, et c'est une spécificité française, sont des filiales de groupe. Donc, il y a...
Travaillent comme sous-traitants pour des entreprises.
Non, elles sont possédées en partie par des groupes.
Olivier Redoulas.
Je pense que, effectivement, dans l'idéal, on aimerait que l'intervention publique puisse voir en face, vis-à-vis, un objectif, par exemple, soutenir tel secteur, notamment dans le cadre d'une politique industrielle, et c'est de ça dont on parle, finalement, qu'on fait de la réindustrialisation. Et puis un moyen en face. Le sujet qui me vient, c'est que l'État sait faire ça parfois. Il sait faire ça notamment dans la défense. Ça fonctionne plutôt bien. De fait, la façon dont l'État utilise ou exploite ou met en tension l'écosystème de défense fonctionne bien. On a d'ailleurs des beaux produits à exportation. Ce n'est pas certain que ça fonctionne aussi bien dans d'autres domaines. On a tout plein de domaines où ça fonctionne pas très bien. Moi, je pense notamment dans un autre secteur où l'État est plutôt légitime à agir, parce qu'en plus, il est le principal client, il régule les prix, c'est la pharmacie. La pharmacie, ces dernières années, est en train de s'éroder, perd du terrain au niveau européen, parce que à la fin, l'État est pris lui-même par ses propres contradictions, c'est-à-dire, comme il est acheteur, mais il a plutôt envie de baisser les prix, comme il veut que ces produits qu'il achète servent Le public, ben, il a plutôt tendance à vouloir maintenir des volumes. Puis par ailleurs, comme ce sont des entreprises capitalistiques, il a plutôt envie de taxer leur capital. Et à la fin, l'ensemble, et c'est une somme de mesures incohérentes. Ce qu'on a vu qui marchait en termes d'industrie, au fond, c'est des mesures assez transversales, neutres d'un point de vue technologique. C'est le plan Biden, c'est l'Inflation Reduction Act américain, où là, on dit, ben voilà, on a besoin d'industrie d'énergie décarbonée, on a besoin d'énergie nucléaire. Ben, chaque mégawattheure d'énergie décarbonée que vous produisez, ben vous allez avoir tant d'euros en plus. Mais là, on a vu immédiatement la courbe des investissements productifs aux États-Unis se redresser de manière juste exponentielle. Donc, idéalement, on aimerait avoir une capacité, une technicité de l'État qui rentre dans les écosystèmes productifs et qui savent gérer ça. En pratique, je n'y crois pas vraiment. Et je pense que ce qui marche le plus, ce sont des mesures très transversales.
D'accord, tous les deux, c'est... qu'il faut que les aides soient fléchées pour qu'elles soient plus efficientes d'une manière ou d'une autre, mais qu'on essaie de donner une forme de cohérence. Là, vous disiez sectorielle en parlant du plan Biden à propos des énergies renouvelables, et vous parliez plutôt sur un point de vue territorial. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Je voudrais vous faire réagir sur quelques propositions de la commission sénatoriale. Alors, ce n'est pas un quiz, mais la recommandation numéro 12 est de diviser par 3 le nombre de dépenses fiscales et de subventions budgétaires aux entreprises d'ici 2030. Est-ce que c'est quelque chose qui est concevable rapidement, selon vous, Olivier Redoulès?
Oui, il y a sans doute de la simplification à faire, surtout que toutes les entreprises ne sont pas sans doute au courant des aides dont elles ont besoin. Donc ça crée en fait une égalité entre les entreprises qui ont tout un tas de gens pour aller chercher des aides et celles qui ne sont pas équipées pour ça, et en particulier les PME. Après, le chiffre, si c'est 2 ou 3, à voir. Il faut savoir par contre, l'inconvénient de ce type de mesure, c'est qu'on risque d'avoir des aides qui suivent des objectifs multiples. Et c'était le sujet, par exemple, du CICE, qui ciblait à la fois l'emploi et la compétitivité. À la fin, on ne savait pas, en fait, vers quoi il allait.
Nadine Levato.
Alors, je crois que c'est le nombre de mesures, hein. C'est pas le montant. Hein.
Alors, le nombre de dépenses fiscales, ouais. Vous avez bien raison.
Et donc, le rapport identifie toute une série de petites mesures qui représentent des montants très faibles.
Qui ne vont pas assez loin pour vous?
C'est une des mesures. Alors, ce sera déjà bien, puisque toutes ces scories qui peuvent avoir des coûts de gestion élevés, en plus, puisque ce sont des dossiers, ce sont des contrôles, ce sont des montages. Donc, les supprimer serait tout à fait
autre
bénéfique.
Proposition de ce rapport, imposer le remboursement total d'une aide de l'État ou des collectivités territoriales si l'entreprise procède à une délocalisation d'un site ou d'une activité ayant justifié l'aide dans les 2 années suivantes, etc., etc., c'est-à-dire demander aux entreprises qui organiseraient un plan social de rembourser l'aide qu'elles ont reçue par l'État.
Nadine Levato. Sur le principe, c'est une très bonne idée. Sur la mise en œuvre, ça me paraît très compliqué, notamment pour des raisons qui tiennent à la subtilité des montages juridiques. Si vous avez un site qui est une entité indépendante, c'est-à-dire une unité légale, que cette unité légale est mise en faillite, parce que c'est très facile de faire faillite à une entreprise, et que l'entreprise disparaît, il n'y aura pas de possibilité de récupérer cet argent, puisque le débiteur n'aura plus d'existence juridique. Donc, il va falloir border les contrats, si vous me passez l'expression, pour pouvoir arriver à ce résultat.
Rapidement, Olivier Redoulès.
Je pense que ce type de proposition illustre la complexité dans laquelle on s'engage à partir du moment donné où on a ces montants d'aide qui sont un objet politique et auquel on veut trouver finalement davantage de transparence, davantage de traçabilité. Bon, la solution serait plutôt de réduire les prélèvements et de réduire les aides en face. Comme ça, on n'aurait pas besoin des entreprises qu'on prélèverait moins à la base. Ensuite, en seconde baisse, il faut contractualiser. Si on contractualise et si on laisse une période de carence pour les dispositifs existants...
C'est-à-dire si on demande des garanties aux entreprises
ensuite,
qui touchent des aides...
C'est très compliqué à mettre en œuvre. Après, dès qu'on rentre dans les détails, c'est quel site, les entreprises, comme Nadine le précisait, elles sont organisées des fois... en groupe avec des choses très différentes. Donc à la fin, le suivi opérationnel risque d'être complexe, risque de créer de l'insécurité juridique des deux côtés. Mais sur le principe, pourquoi pas si on contractualise?
Eh bien, on restera sur cette idée, peut-être contractualiser l'aide aux entreprises, une solution sur laquelle vous semblez être d'accord. Merci d'être venu en débattre. À vous deux, Nadine Levrato, économiste, directrice de recherche au CNRS, Olivier Redoulès, économiste, directeur du pôle études de l'Institut Rexecode. L'émission de ce soir a été préparée par Théa Corlaire, à
Aloïs Guérin à la programmation. Merci à toute l'équipe, Paul Wenerchter, Maud Yaïch, Alice Chavarin, Vivian Lecuivre à la réalisation et à la technique ce soir, Grégory Wallon. Demain, 12h, dans le magazine du week-end, vous retrouverez Antoine Dulster qui se demandera avec ses invités si l'affaire Epstein se retourne contre Donald Trump. Donald Trump qui sera aussi au menu de questions du soir lundi, puisque nous nous demanderons quand faudra-t-il cesser de parler de la démocratie en Amérique. En attendant, passez une très bonne soirée et un très bon week-end sur France Culture. À lundi.